Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. C'est Contre-Histoire et nous partons pour Prague. Prague, la capitale de ce que j'appellerai toujours la Tchécoslovaquie. Le 14 mars 1939, les Allemands sont entrés en Moravie, la province à l'ouest. Ils y sont arrivés à cheval, à moto, en voiture, en camion. Ce n'est qu'une petite invasion, éclair, en douceur. Une petite annexion, sans faire d'histoire. Ce n'est pas encore la guerre à proprement parler. C'est juste que les Allemands arrivent et qu'ils s'installent. Et c'est tout. Le haut commandement de l'opération se déplace en automobile Horch 901 ou Mercedes 170. Les chevaux sont montés par d'autres officiers. Les camions transporteurs de troupes appartiennent au modèle Opel Blitz et les motos des sidecars lourds Zundapp, qui sont pilotés par des gendarmes casqués à collier métallique. Tous ces moyens de transport s'ornent d'oriflammes rouges à disques blancs contenant cette croix noire un peu spéciale qu'on ne présente plus et que les officiers arborent aussi sur leurs brassards. Quand tout ce petit monde, il y a 6 mois, s'est présenté dans les Sudètes, les Sudètes, une région boisée entre l'Allemagne et la Bohême. Quand tout ce petit monde, il y a 6 mois, s'est présenté dans les Sudètes, il a été plutôt bien reçu par les ressortissants allemands de la région. Parce que si Hitler prétendait qu'il lui fallait les Sudètes, c'est parce qu'il y avait dans cette population frontalière, une grande quantité d'Allemands, ce qui se passe autour de toutes les frontières. Hein. On connaît ça. Pour des raisons de travail, hein, les gens traversent les frontières partout. Mais à présent, la frontière passée de Bohême-Moravie, l'accueil est nettement plus froid. À Prague, le petit monde est entré dans un silence de pierre. Et dans la province morave, les gens ne sont pas non plus massés au bord des routes. Ceux qui s'y sont risqués considèrent ce cortège avec moins de curiosité que de circonspection, sinon de franche antipathie. Mais quelque chose leur dit qu'on ne plaisante pas, que c'est pas le moment de le faire voir. Émile, dont on va parler tout au long de cette émission et de probablement quelques autres, Émile est un garçon qui a quitté l'école pour aller en usine et en sortant de l'usine, tous les soirs, il va prendre des cours pour améliorer son sort. Émile n'a pas rejoint ses spectateurs car il a beaucoup d'autres choses à faire. D'abord, il a quitté depuis 3 ans l'école où sa famille n'avait pas les moyens de le maintenir. Il occupe en usine un emploi d'apprenti avec lequel on ne plaisante pas non plus. Puis, quand il sort de l'atelier, il suit des cours de chimie dans l'idée d'être un jour autre chose qu'un apprenti. Enfin, quand il a le temps de rentrer chez lui, il donne un coup de main à son père dans le jardin, qui n'est pas un jardin d'agrément, qui est l'endroit où l'on doit faire pousser tout ce qu'on mange. Émile a 17 ans. C'est un grand garçon blond au visage en triangle, assez beau, assez calme, et qui sourit tout le temps. La propagande nazi, national-socialiste, s'est installé sous diverses formes. Censure de la presse, films, livres et chansons, interdiction d'écouter les radios étrangères, meetings et conférences assez obligatoires, distribution de brochures, affichage à grande échelle. Les rues sont constellées de journaux muraux, de photo-reportages démontrant que l'armée d'occupation est, on ne peut plus, correcte. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'occupation. L'armée allemande respecte les personnes et les biens. Le soldat allemand est l'ami des enfants. Au cinéma, quand Émile a le temps et l'argent pour y aller, diffusé avant le film comme les documentaires classiques et présenté comme tel, sous forme de témoignages sérieux, fondés sur des informations sérieuses. Il peut voir les nouveaux journaux d'actualité. Il consiste en images harmonieuses, séduisantes, sur lesquelles une chaleureuse voix off l'interpelle affectueusement en proclamant le retour à la normale, à la paix, la cohésion et la fraternité. Entretenue par des organisations de jeunesse aussitôt créées, la propagande s'exerce également fort dans les écoles et dans les universités. L'une des premières initiatives de l'occupant est de monter pour les jeunes gens des manifestations sportives, athlétisme et jeux collectifs. Là encore, c'est assez obligatoire. Or, tout gentil qu'il est, Émile s'aperçoit aussi qu'il aime bien se battre. Pour les premières fois qu'on le met sur une piste, il y va de toutes ses forces et gagne facilement deux courses de 1500 et 3000 mètres. On le félicite, on l'encourage, on le récompense d'une tartine et d'une pomme. On lui dit de revenir et il revient et se met à s'entraîner au stade. D'abord pour rire et puis de moins en moins. Enclavé dans la zone industrielle et très laid, le stade de Zlin se trouve en face de l'usine électrique. Le vent y chasse la fumée des cheminées, la suie et la poussière qui retombent dans les yeux des sportifs. Malgré ses inconvénients, Émile commence à bien l'aimer aussi ce stade. L'air lourd qu'on y respire est quand même bien plus pur que celui de l'atelier d'usine. À l'atelier d'ailleurs, ça s'arrange pas. À la suite d'une embrouille et comme sanction professionnelle, Émile a été changé de poste et chargé de la pulvérisation des silicates. C'est une tâche encore plus ingrate que les autres. La poussière blanche qui le recouvre et qui l'absorbe lui donne l'air d'un spectre en apnée à plein temps. Comme il s'en plaint et sollicite une mutation, le chef du personnel lui propose obligeamment, s'il n'est pas content, d'être envoyé en camp de travail. Émile n'insiste pas. Cependant que les Allemands font maintenant régner la terreur dans le protectorat, qu'on déporte et qu'on massacre, qu'on brûle et rase à tour de bras, continuer à courir permet peut-être de penser à autre chose. C'est ainsi qu'il se retrouve en train de battre un record, à Zlin, où il devient le premier de son pays à franchir le 5000 mètres en un quart d'heure. On s'exclame, on s'exalte, on prévient la presse nationale. Mais les types de Prague n'y croient pas. Ils pensent d'abord qu'il s'agit d'une erreur de téléscripteur, puis que les chronomètres de Zlin ont été truqués. Et puis Zlin, qu'est-ce que c'est que ce bled ? Qu'est-ce que c'est que ce minable ? Qu'est-ce que c'est que cet escroc ? N'empêche, après avoir encore amélioré son quart d'heure dans son bled, Émile vient courir quelque temps plus tard 2000 mètres à Prague et il y bat un nouveau record, son troisième de l'année. Les types de Prague forcent leur aide d'admettre qu'ils se sont trompés. Hiver 1944. L'hiver a été rude, les bombardements de novembre sur la ville ont provoqué de gros dégâts. Plus de chauffage nulle part, on se gèle en attendant l'issue de la guerre, qui, se dit-on, ne devrait peut-être plus tarder. Depuis le début du printemps, les cheminées de la mairie occupée crachent en effet sans cesse une fumée brune et poisseuse qui empuante toute la ville et n'arrange pas la qualité de l'air au stade. Il semble que les Allemands se soient mis à brûler leurs archives. Qu'ils fassent ainsi disparaître leurs documents secrets donne la mesure de leur inquiétude. Et ce n'est pas mauvais signe. On a un vague espoir. Nul autre foyer, nulle autre source de chaleur dans Zlin, sauf que, dans leur chambre à l'école professionnelle, Émile et ses copains ont bricolé un vieux poêle trouvé dans les décombres. Malgré la peine de mort par pendaison prévue pour de telles actions, on a glané du bois parmi les ruines et on a passé l'hiver comme ça. Au printemps, comme le front se rapproche toujours, il est interdit de s'entraîner, comme d'ailleurs de faire quoi que ce soit. Mais avec le soleil revenu qui vous donne une de ces envies de prendre l'air, Émile ne résiste pas au désir d'aller effectuer quelques tours de piste. Trouvant le stade verrouillé, il escalade l'enceinte et par une fenêtre mal fermée, il passe dans les vestiaires d'où il gagne la cendrée, la piste. Elle est en sale état. Son mâche-fer transpercé de mauvaises herbes se délite. Mais elle est là. Émile s'est mis à l'arpenter en mesurant son souffle, quand retentissent les sirènes. Depuis le début des années de guerre, il a appris à connaître leurs codes avec précision. Il sait que leurs notes éloignées, cette fois, signalent une alerte et que des blindés sont en vue. C'est peut-être le signe de l'arrivée tant attendue des forces de libération. Une série de détonations commence en effet de faire vibrer l'air par saccades. Disposée sur la pente au-dessus du stade, la batterie de DCA allemande vient d'ouvrir le feu. Émile quitte prudemment la piste, mais avant de rentrer, il profite de ce qu'il est là pour repasser par les vestiaires, récupérer les tenues d'entraînement de ses copains qu'il prend sous le bras pour les rapporter en ville. Rasant les murs des rues vidées par l'alerte, il est contraint de s'arrêter. Les occupants n'ont pas tardé à tenter de s'échapper et pas perdu tout espoir de s'en tirer. Mais on voit sur leur tête qu'ils ont peur. Quelque part entre la ville et la forêt, des tirs de mitrailleuses commencent à se faire entendre. Indice d'échange sérieux, et l'armée soviétique pourrait vraiment n'être pas loin. Soucieux de rendre les tenues à leurs propriétaires, Émile court vers l'école professionnelle dès que la voie est libre. Mais il trouve les portes fermées, tout le monde s'étant réfugié dans les caves dès le commencement de l'alerte. De l'autre côté d'une rue qu'il allait traverser, deux maisons viennent de s'écrouler sous l'impact d'une bombe. Émile se replie précipitamment et, trouvant un chemin de traverse pour rejoindre l'école, il entend quelqu'un crier quelque part que oui, les Russes sont arrivés et qu'ils se sont mis à tirer depuis la forêt. D'ailleurs, au beau milieu du jardin de l'internat, en effet, les voilà, des soldats vêtus d'uniformes inconnus qui s'avancent en scrutant nerveusement autour d'eux. Émile se met à crier à son tour et court à leur rencontre. Il est le premier à leur parler, à leur dire qu'on les attendait, qu'il est content de les voir, qu'il leur souhaite la bienvenue. Il dit n'importe quoi. Les soldats répondent brièvement en regardant ailleurs, mais ils répondent quand même. On ne dispose pas de beaucoup de mots pour se faire comprendre, mais on se serre rapidement la main, on se tape sur l'épaule, on échange par mimique et par geste. On s'entend à peu près comme ça. Bientôt, sortant l'un après l'autre de leur trou, les habitants de Zlin s'approchent. Les soldats soviétiques ont de bons sourires fatigués et s'inquiètent de savoir où sont les Allemands. « Déjà filés pour la plupart, leur dit-on, montrant par où ont fui les derniers véhicules. Mais tout n'est pas réglé. Une partie d'entre eux doit se cacher encore dans le coin. Il va falloir les déloger. » Arrivés dans la soirée, quelques unités font halte à Zlin. Les postes de commandement, l'emplacement des batteries sont promptement fixés pour commencer le nettoyage et quelques minutes plus tard, les obusiers entreprennent de s'exprimer. La nuit tombée, les choses se calment. Émile rentre se coucher. Mais il ne parvient pas à s'endormir. Il vient de s'assoupir enfin quand vers minuit, un premier coup de feu le fait sursauter. Puis il entend un cœur de mitrailleuse se remettre en action. Soli tutti, contrepoint, un solide combat d'artillerie vient de s'engager contre l'ennemi qui tente avec acharnement de dégager ses dernières unités encerclées. Rien n'est donc gagné pour autant, et la population reste saisie de frayeur, fort inquiète de son sort si la tentative allemande réussissait. Car on connaît alors la suite, otages et représailles, etc. On se rue à nouveau dans les caves et les abris, cependant que les défenseurs tiennent bon, ripostent, puis reprennent la main, et au bout d'un moment, les forces d'occupation semblent repoussées. Émile, qui observe ce qui se passe et ne s'est pas réfugié comme les autres, s'est armé d'une pelle de campagne pour donner tant bien que mal un coup de main aux soldats. Il les aide à creuser des tranchées. Il sert pas à grand-chose, mais c'est toujours ça. D'ailleurs, on dirait que ça s'arrange quand tout à coup les Allemands se remettent à tirer furieusement, cherchant leurs victimes sur les grandes pentes exposées derrière la ville. Et ça n'en finit pas. Le combat se poursuit toute la nuit. Retranchés dans la forêt, ce qui reste de l'infanterie allemande se démène pour tenir, détruire un maximum de monde avant de pouvoir envisager de se rabattre. Mais cependant qu'on les situe précisément, qu'on les contrôle, qu'on les circonvient, on a pris soin de faire appel à des forces d'appoint qui surviennent rapidement en renfort. Il suffit de quelques heures pour que leur dernière poche de résistance, quand le soleil se lève, ait toute été exterminée par les tirs de mortiers soviétiques. Le silence retombe sur Zlin. La guerre est finie. Émile a beau ne pas gagner toutes ses courses, n'empêche, à force d'accumuler des records, il est devenu l'air de rien, l'idole de son pays. Ce qu'il représente maintenant aux yeux du peuple tchèque, c'est simple. Il suffit qu'un matin paraisse dans les journaux une brève indiquant qu'il se mettra en piste à 18h pour que 20 000 personnes se battent le soir même à l'entrée du stade Masaryk. Masaryk, qui était le premier président de la Tchécoslovaquie républicaine à la sortie de la guerre, à la sortie de l'Empire austro-hongrois en 1918. On propose à Émile de représenter l'armée tchécoslovaque au championnat des forces alliées qui vont avoir lieu à Berlin. Fort soutenu par sa hiérarchie, sa demande de participation est agréée. « Bon, dit Émile, très bien, j'y vais. » Et il part seul, un vendredi, en tenue militaire et en train, direction Berlin, avec changement à Dresde. Les championnats doivent débuter le samedi et il n'arrive à Dresde que vers minuit. La ville a été entièrement détruite, comme on sait, par les bombardements. Ce ne sont qu'immeubles effondrés, chaussées défoncées, ruines pendantes. Il ne reste plus grand-chose de Dresde, à part la gare. En sortant de celle-ci, Émile essaie de trouver son chemin parmi les décombres. Pas une lumière dans les rues dévastées, personne pour lui indiquer son chemin. Émile est affamé, fatigué, il a sommeil et il pleut des cordes. Il finit par tomber sur un lieutenant américain qui met d'abord un temps fou à le comprendre et à identifier son uniforme, puis qui accepte de le guider. Émile le suit jusqu'à une sorte de salle d'attente, un ancien abri anti-aérien où traînent quelques sentinelles. Les soldats désœuvrés sont contents de voir quelqu'un venir meubler leur ennui, surtout vêtu de cette tenue bizarre qu'ils n'avaient jamais vue. Ils s'étonnent, mais dans l'état où il est, Émile n'a pas très envie de s'expliquer. Il doit courir demain. C'est ce qu'on lui a fait comprendre. Le train pour Berlin part à 5h du matin. Ça serait bien de pouvoir se reposer un moment s'il ne veut pas arriver au stade épuisé. Les sentinelles s'en foutent, n'arrêtent pas de lui poser des questions qu'Émile ne comprend pas. Il essaie de leur répondre par gestes de plus en plus évasifs et dilatoires. Les soldats se découragent, le laissent enfin tranquille, lui désignent un banc. Émile se couche sur le banc et dort une heure ou deux. Il n'arrive à Berlin que le lendemain après-midi, plus fatigué que jamais, toujours seul et mort de faim. Il se débrouille pour savoir où se trouve le stade, s'y précipite pour ne pas rater le départ de l'épreuve. Il n'en peut plus. Entrer dans les lieux, après qu'on lui a fait toute une histoire au contrôle, se perdant sans cesse dans l'énormité du bâtiment, posant à son tour des questions que personne ne comprend, sans pour autant saisir ce qu'on essaie de lui répondre. Il réussit enfin à trouver un des organisateurs. Émile est soulagé d'apprendre que sa course n'est prévue que pour le jour suivant. Mais c'est pas tout. Il faut encore s'inscrire et donc trouver d'abord l'autre organisateur chargé des inscriptions. On finit par les lui indiquer. Mais cette fois, c'est un capitaine anglais qui s'occupe de la liste. Quel pays ? Demande le capitaine. Tchécoslovaquie, répond Émile. Bien, dit le capitaine. Combien de participants ?
Eh bien, dit Émile, moi.
Oui, dit le capitaine, d'accord, mais à part vous.
Eh bien, moi, répète Émile, juste moi.
Ah bon, s'étonne le capitaine en hochant la tête, juste un.
Oui, confirme Émile, juste un. Moi.
Bon, patiente le capitaine, et c'est pour quelle épreuve ? Le 5000 mètres, dit Émile. « Va pour le 5000 mètres, dit le capitaine, en s'apprêtant à porter son nom sur la liste appropriée. Puis il se reprend, suspend son crayon et considère longuement Émile. Et sans doute le trouve-t-il un peu débraillé, tout froissé, pas rasé, mal peigné. Pas l'air très sérieux, somme toute. « Et vous avez déjà couru 5000 mètres ? Insinue-t-il avec douceur ?»«
Ça oui, dit Émile, plusieurs fois. »
« Très bien, dit le capitaine, de plus en plus onctueux. « Et quel temps avez-vous atteint pour cette distance ?»«
Ma foi, répond simplement Émile, j'ai fait 14:25:08. »«
14:25, 8 centièmes. »« Pardon ?» sursaute le capitaine.
« 14:25, 8 centièmes, répète Émile.
« Un instant !» dit le capitaine, c'est possible ça ?
Vous pouvez vérifier, dit Émile, c'est facile, Oslo, championnat d'Europe.
Bien entendu, bien sûr, dit le capitaine, en notant précipitamment le nom d'Émile. En sortant de là, ne trouvant pas de voiture, Émile embarque sur la plateforme d'un camion qui l'emmène vers les baraquements assignés aux participants. C'est un camp minable et boueux, où d'abord Émile se perd encore pour finir par se voir accorder un galta, où ensuite un soldat ivre et déboutonné lui apporte un fond tiédasse de tasse de thé. Il boit ce thé, dort comme une souche et le lendemain il retourne au stade. C'est celui qui a été construit avant la guerre pour les Jeux Olympiques, la fois où le fourreur aurait refusé de serrer la main à Jesse Owens, à cause qu'il était nègre. Jesse Owens s'est maintenant retiré de la compétition. Mais Larry Snyder, son entraîneur d'alors, fait aujourd'hui partie des invités d'honneur. Les Américains ont décoré le stade de la même manière qu'à cette époque. Il n'y a plus une place libre aux tribunes et le public est surtout composé de soldats. Ça commence. Un défilé d'athlètes de toutes les nations prenant part au championnat doit ouvrir la compétition. Le nom de chaque pays est inscrit sur une pancarte portée par un soldat devant les ressortissants des États respectifs. On va y aller. Émile cherche partout le porteur de la pancarte où doit se trouver l'inscription « Tchécoslovaquia ». Et dès qu'il l'a trouvé, se présente en lui tendant la main et souriant comme toujours. C'est encore un soldat américain qui considère Émile comme la veille l'avait fait le capitaine, puis cherche du regard quelqu'un derrière lui, ne voit personne, et revenant vers Émile, « Quoi, juste un ?» Émile pourrait commencer à s'habituer, mais non, il est embarrassé. Il cherche d'un signe de tête, il acquiesce d'un signe de tête. « Oui, répond-il enfin, juste un. » Le soldat ne peut cacher le mépris que lui inspire ce minable. Au départ, il ne trouvait pas mal de défiler devant une bande d'athlètes. À présent, il se sent ridicule de ne devoir marcher que devant un seul. Son prénom est Joey. Et d'un coup, Joey n'a plus goût à rien. Il est presque humilié. Il laisserait bien tomber tout ça. Maintenant, mais c'est un peu tard. Trop tard. La fanfare attaque les premières notes d'une marche d'ouverture. Joey se fend tristement d'un sourire torve. « Allez, viens, » dit-il avec amertume, comme outragé dans son honneur. « On y va, viens donc !» Les athlètes entrent dans le stade par la grande porte, commencent à défiler devant les tribunes sous les clameurs, tous vivement ovationnés dans leur belle tenue d'entraînement.
Mais quand un seul individu paraît derrière la pancarte Tchécoslovaquia, seul et seulement vêtu d'un short et d'un haut de survêtement délavé, le stade entier s'effondre de rire. Tout le monde se lève pour mieux voir ça. Les envoyés spéciaux tirent leur calepin de leur poche et se lèchent les lèvres en fourbissant leurs adjectifs pour bien noter la scène. Les reporters d'actualité et les caméramens, la film et la photographie avec bonheur. Émile a beau être d'un heureux naturel, il est quand même assez blessé par l'énorme hilarité qu'à lui seul il vient de provoquer. Il est donc tout seul, il se sent très seul et plutôt malheureux. Après que Joey l'a vite laissé tomber à la fin du défilé, en jurant et jetant sa pancarte par-dessus son épaule. Il écoute les discours d'ouverture sans les comprendre, tout en contemplant distraitement les drapeaux nationaux qui flottent. Un Tchèque émigré, engagé dans l'armée américaine, l'a quand même repéré comme une bonne occasion de parler un peu la langue. Il vient s'asseoir près d'Émile et discute un moment avec lui. « Et toi alors, » finit-il par lui dire, « tu cours sur quelle distance ?»« 5 kilomètres, » répond Émile d'une voix lasse. « Quoi ?» s'écrie l'autre épouvanté. « Tu ne sais pas que ça fait un moment qu'on a convoqué ceux du 5000 ? On les a même appelés 3 fois. Regarde le coin là-bas, ils y sont déjà tous. » Émile s'étrangle, saute sur ses pieds, bondit hors de la tribune et fend la diagonale du stade sur un train de sprinter décérébré. Tout en se débarrassant en courant de son survêtement, ce qui l'aveugle un instant et manque de lui faire se casser la figure, il pousse des cris en agitant les bras, essayant d'attirer l'attention des hommes groupés sur la ligne de départ. Heureusement, il arrive à temps. « Qui c'est, lui ? » l'accueille-t-on sans aménité. « Vous aussi, vous voulez courir ? Et vous sortez d'où ? » On cherche son nom sur la liste, on ne le trouve pas. En l'inscrivant la veille, peut-être impressionné par les 14 minutes 25 secondes 8 centièmes, le capitaine a oublié de reporter les corrections sur la liste destinée aux starters. Mais quelques concurrents étrangers qui sont là ont déjà vu courir Émile et ils le reconnaissent, ils témoignent. On va lui permettre enfin de courir. « Bon, ça va, bougonne le starter, ça va. Mais alors vous vous mettez là, derrière, au deuxième rang, dans le couloir. » Émile, cette fois, commence à en avoir marre et se permet de protester. Comme il s'efforce de prouver qu'il a droit à une place à la corde, les autres coureurs solidaires le soutiennent. Eux connaissent le parcours d'Émile. Ils savent qu'il est bon, qu'il est très bon, qu'il fait partie de ceux qu'on place au bord. « D'accord, » grogne le starter avant de lever son pistolet. « Allez, on y va !» Comme Émile, énervé par cet accueil, choisit d'adopter dès le départ une très forte vitesse, il lui faut peu de temps pour se débarrasser de ses adversaires les plus puissants. Son allure est même telle qu'il a bientôt devancé d'un tour entier les derniers coureurs. 80 000 spectateurs se lèvent alors en criant, d'un seul mouvement. Car Émile leur donne un spectacle qu'il n'avait jamais vu. Ayant déjà pris ce tour à tous ses adversaires, il entreprend maintenant de les dépasser à nouveau, l'un après l'autre, et à mesure qu'eux accusent le coup et ralentissent, il accélère encore de plus en plus. Bouche bée ou hurlante, éberluée par la performance, autant que par cette manière de courir impossible, le public du stade n'en peut plus. Debout comme les autres, Larry Snyder lui-même est effaré par ce style impur. « Ce n'est pas normal, juge-t-il. Ce n'est absolument pas normal. Ce type fait tout ce qu'il ne faut pas faire et il gagne. » Plus que 2 tours, vocifère l'annonceur émerveillé sur le passage d'Émile. Et pour mieux le lui faire comprendre, il tend 2 doigts vers lui au risque de lui crever les yeux. Dans les tribunes, on jubile, on trépigne, on frémit, on s'exalte. Toutes les unités militaires scandent son nom en chœur. Dernier tour, s'époumonne l'annonceur hors de lui, nettement plus essoufflé qu'Émile lui-même. Et le starter éperdu tire de joie un coup de revolver en l'air, cependant qu'Émile développe son train de plus en plus, accroît sans cesse la cadence de sa course, bien que tous ses concurrents soient à présent tellement loin derrière lui. quand il s'élance enfin sur la dernière ligne droite. Le public est au bord de s'évanouir. Quand il franchit le ruban, les tribunes se mettent à mugir. Les applaudissements semblent ne jamais devoir s'achever. Personne, car tout le monde s'en fout, ne songe à noter qu'il vient accessoirement de pulvériser le record tchécoslovaque. En lui, Émile, pas fatigué pour un sou, se fendant d'un bon sourire, continue de trotter gentiment après l'arrivée, comme pour se remettre en forme après ce petit effort. Mais on ne le laisse pas faire longtemps, on se jette sur lui, en l'accablant de questions. Les uns l'habillent pour qu'il ait chaud, les autres le déshabillent pour mieux le voir. Tous le photographient sur toutes ses faces, tous à la fois veulent lui dire qu'il vient de faire une chose invraisemblable. Son nom est alors peu connu hors des frontières de son pays, et les gens ont l'air de croire qu'il ne le connaît pas lui-même, car on le lui répète sur tous les tons comme pour l'en informer. Émile, on a compris, comme il est simple et modeste, reste confus devant cette admiration qu'on lui témoigne de toutes parts. Il cesse d'assurer que non, que c'est très gentil à vous, mais que vraiment non, qu'il n'est pas un coureur miraculeux, qu'il n'a été que 5e au championnat d'Europe. Mais le plus heureux de l'affaire, celui qui ressent la plus grande allégresse, c'est le porteur de pancartes humiliées. Le cœur de Joey, en cet instant, est dilaté d'orgueil. Dans un moment, Émile va devoir prendre part au défilé final, sa médaille épinglée sur son haut de survêtement. Avant de le rejoindre, il aperçoit de loin son soldat américain, sa pancarte à la main, qui l'attend avec impatience et qui, fou de fierté, se jette sur lui dès qu'il peut. « Justin !» crie-t-il en l'étreignant et riant au bord des larmes. « Justin ! Justin !» Il le touche, le serre, le tripote, le pétrit. Il est tellement content qu'il pourrait le battre. En marchant tout à l'heure devant Émile, devant le défilé, Joey va rayonner de triomphe et de félicité, se sachant à présent envié, jalousé par tous les autres porteurs de pancartes du monde. Juste un, nom de Dieu. Et Émile continue à gagner partout dans le monde. Jusque dans les années 60. Retour de Londres, avec l'or des 10 000. Donc, qu'Émile complète avec une petite médaille d'argent aux 5 000. Et s'est emballé pour cette fois. Mais il n'y a pas que les Jeux Olympiques dans la vie. Ce n'est pas tous les jours aussi drôle. Un an plus tard, il doit courir dans sa région natale, sur le stade d'Ostrava, contre 16 autres concurrents militaires. Or, la veille, il se trouvait à Gottwaldow et n'a pu attraper que l'express de 23 heures. Le train était bondé, le voyage a duré 5 heures, pendant lesquelles Émile a dû rester debout dans le couloir du wagon, sans rien à manger que des biscuits arrosés d'un peu de bière offerts par un permissionnaire. Il est encore mort de fatigue en arrivant à Ostrava et s'endort dans le tramway. Heureusement qu'un autre soldat qui l'a reconnu le réveille à l'arrêt du stade. Quand retentit le coup de pistolet de ses nouveaux 10 000 mètres, Émile ne désire pas se donner en spectacle, et que le public soit assez clairsemé ce jour-là, dans les gradins, n'y est pour rien. C'est juste qu'il n'a pas la tête à ça. Il ne s'est pas spécialement entraîné la veille, il est vraiment crevé. Vivement qu'on en finisse. Cependant, la piste est en très bon état. Elle vient d'être refaite avec ses grands virages qui ont toujours favorisé les performances. Mais ce n'est que machinalement qu'Émile, prenant presque aussitôt la tête du groupe, se trouve assez vite détaché de ses concurrents, de plus en plus loin devant eux. Il court, sans se poser de questions, puis le haut-parleur annonce que, dans les premiers temps, ses temps intermédiaires sont supérieurs à ceux de Heino. Or, celui-ci, bien que battu à Londres, conserve toujours son record mondial. L'évocation des forêts profondes fait plaisir à Émile, qui, ressentant toujours la fatigue du voyage, ne croit quand même pas pouvoir tenir le rythme. Mais après le 7e kilomètre, il change d'avis. Il se sent encore disposé de quelques réserves. il décide de tenter sa chance. Il la tente. Et voilà, ça y est, il bat le record du monde.
Champion du monde, la réaction est immédiate. On le nomme capitaine. On se concerte en haut lieu où l'on tient Émile, c'est certain, pour un phénomène du socialisme réel. Donc il vaut mieux qu'on se le garde, qu'on se l'économise et qu'on ne l'envoie pas trop à l'étranger. Puis il est rare, et mieux ce sera. Puis il serait vraiment dommage que sur un coup de tête, à l'occasion d'un de ses voyages, il passe, comme certains, de l'autre côté. L'immonde côté des forces impérialistes et du grand capital. Par conséquent, alors qu'Émile vient d'être invité pour un 5000 mètres international à Los Angeles, on le convoque. « Camarade, lui dit-on, le comité militaire a décidé qu'à l'avenir, tu ne pourras participer à aucune compétition sportive sans autorisation préalable. »« D'accord, dit Émile, mais ça ne change pas grand-chose. » Jusqu'à présent, je les ai eues, les autorisations. « Eh bien, justement, camarade, lui répond-on, les autorisations, tu ne les as plus. Tu peux disposer. » Le comité se fend d'un communiqué annonçant cette mesure, arguant que des invitations trop nombreuses à des réunions peu importantes éloignent Émile de ses devoirs militaires et l'empêchent de poursuivre son perfectionnement sportif. Émile encaisse. Mais ça lui plaît pas trop. Il ne dit rien, mais le fait est que les temps qui suivent, il se met à perdre assez régulièrement. Il devient négligent, finit troisième ou quatrième dans des courses qu'il aurait pu facilement gagner. Ça va pas bien fort, dirait-on. Parfois, il ne prend même pas le départ. Dans la presse étrangère, on fait d'abord semblant de ne pas comprendre. On dit Émile malade, on parle de blessures aux pieds, de tétanos, d'empoisonnement du sang. On spécule sur le triomphe des médecins qui l'avaient condamné. Ou bien on croit comprendre, mais c'est avec diplomatie qu'on l'exprime. « Nous ne voulons pas attacher de crédit, écrit-on prudemment, au bruit selon lequel Émile est tombé subitement malade en apprenant que son déplacement prévu en Californie n'était plus autorisé par les autorités de son pays. » Mais tout ne va quand même pas si mal sur tous les fronts. Un samedi, plus souriante à son sujet, la presse sportive annonce « Nouvelle épreuve demain pour Émile !» Mais il ne s'agit que de son mariage avec Dana, prévu pour le jour suivant. Et par un beau dimanche d'automne, dans son bel uniforme tout neuf de capitaine, il épouse en effet la fille du colonel, future championne olympique de javelot. C'est donc sous une double haie de ses armes que le cortège nuptial, provoquant d'énormes rassemblements, embouteille longuement les rues de Prague. Prague, ou à part ça, tout le monde crève de peur. Prague, où ces années-là, tout le monde a peur, tout le temps, tout le monde, de tout, partout, dans l'intérêt supérieur du parti. La grande affaire est maintenant dépurée, démantelée, écrasée, liquidée, les éléments hostiles. La presse et la radio ne parlent que de ça. La police et la sécurité d'État s'en chargent. Chacun peut, à chaque instant, se voir inculpé, comme traître, espion, comploteur, saboteur, terroriste ou provocateur, relevant au choix d'une obédience trotskiste, titiste, sioniste, ou social-démocrate, tenu pour coulaque ou nationaliste bourgeois. N'importe quand, n'importe qui peut se retrouver dans une prison ou dans un camp, pour des raisons qu'en général il ignore. Il s'y retrouve la plupart du temps, moins pour ce qu'il pense que parce qu'il gêne quelqu'un ayant le pouvoir de l'y envoyer. Chaque jour, des quatre coins du pays, des centaines de lettres arrivent à la sécurité d'État, qui attire avec beaucoup d'obligeance et d'imagination l'attention de celle-ci sur tel camarade, collègue, voisin, parent, dénoncé dans le cadre de la conspiration contre le régime. Voilà, nous en sommes au point que nous avons connu sous une forme un peu différente, il n'y a même pas 10 ans.
Personne n'osant plus se parler ni s'écouter, on se fuit méthodiquement les uns les autres, on ne se connaît plus, même au sein des familles. La presse est ligotée comme jamais, comme jadis, l'écoute des radios étrangères exposant à de sévères représailles. La terreur s'étant ainsi confortablement installée dans les consciences, le choix est simple, se taire et se résigner, ou se joindre aux démonstrations d'approbation fanatique du régime et au culte du président Gottwald. Une bonne planche de salut consistant aussi à adhérer au parti qui en quelques mois a grossi de plus d'un million de nouveaux membres et dont, il faut bien dire, Émile. Qu'on n'aille pas croire qu'Émile est un opportuniste, qu'il croit sincèrement aux vertus du socialisme est une chose indiscutable, mais une autre, non moins discutable, est qu'il est difficile, là où il en est, de faire autrement. Il sait qu'il a sa place dans le collimateur, et que déjà dans les sphères penseuses du pouvoir, on se plaît à se demander, en toute logique, si la situation de grand sportif populaire ne relèverait pas de l'individualisme bourgeois, l'adoration malsaine pour un athlète faussant gravement l'idéal stakhanoviste. Émile, bien que par précaution l'on préfère toujours le cacher, le prétendre en petite forme, fatigué, voire malade, Émile n'en démord cependant pas. Comme Heino, ressorti en grondant de ses forêts profondes, s'empare à nouveau du record mondial des 10 000 mètres, Émile le lui reprend 52 jours plus tard, laissant ses adversaires si loin derrière que le second termine avec 4 tours de retard. Sur 5 000 et sur 10 000, décidément, Émile demeure l'homme le plus rapide du monde. Quelques mois plus tard, en Finlande, il pulvérise encore à ce point son propre record des 10 000. Tellement que le public, à la première annonce du résultat, refuse d'y croire et reste muet. Lorsque ce temps est confirmé, se déclenche un ouragan d'enthousiasme qui se prolonge sans mollir pendant 25 minutes. Le silence revenu, Émile fait son petit tour d'honneur à la vitesse d'un bon 400 mètres, comme si rien ne s'était passé. Et comme toujours, quand on le félicite, il assure n'y être pas pour grand-chose, attribuant son exploit à la qualité de la piste et à la température idéale des pays nordiques. Et puis de toute façon, assure-t-il, les exploits individuels n'ont guère d'importance. Ce qui compte, c'est attirer les masses laborieuses sur les stades. Voilà ce qui importe. Bien sûr, Émile, bien sûr, cette forte pensée t'honore. Bref, il continue de gagner presque toujours, sous la pluie, sous la neige, sous un vent glacial. Il les laisse tous derrière lui partout, presque partout. Car dans les réunions d'Europe orientale, regroupant l'URSS et les pays satellites, dans les grands rallyes communistes à Berlin-Est, Budapest, à Bucarest, à Varsovie, ou bien quand il part s'entraîner en Crimée, là évidemment, pas de problème pour le laisser quitter Prague. Par contre, lorsqu'il est invité ailleurs, dans le monde réputé libre, entendez « asservi par le grand capital », ce qui arrive très souvent, puisqu'on le demande partout. « Pas question !» D'ailleurs, ce n'est même pas lui qui répond qu'il refuse, c'est sa fédération. D'ailleurs, celle-ci, guerre froide aidant, ne daigne pas répondre. Même aux crosses de l'humanité à Paris, qui présente de solides garanties sur le plan idéologique et fait venir les meilleurs athlètes du bloc socialiste, même là, on ne le laisse pas aller. C'est aussi qu'on se méfie. Et on a des raisons. Prenons par exemple un nommé Basigal, jeune étudiant tchécoslovaque, excellent coureur de demi-fond, qu'on a laissé partir courir ce cross de l'UMA. Eh bien, voici que l'idée lui a pris de ne pas rentrer à Prague, de rester à Paris, et demander je ne sais quel asile plus ou moins politique. Très fâcheux précédent. Très vif mécontentement de la fédération, puis des sphères supérieures. Mais bon, sans doute a-t-on dû réagir en douceur, prendre des mesures et engager des techniciens car ce jeune Bassigal, le temps d'obtenir un permis de séjour et d'adhérer au Racing Club de France, très vite, on n'entendra plus jamais parler de lui. Il ne faudrait surtout pas que de tels désagréments se produisent avec Émile. Aussi le soigne-t-on de près, l'extrayant parfois de sa retraite pour l'exhiber, le mettre en scène, jusqu'à lui organiser des numéros personnels sans concurrent. À l'occasion de la journée de l'armée tchécoslovaque, devant 50 000 personnes au stade militaire de Strakov, on le fait ainsi courir tout seul, pendant la mi-temps de la finale du tournoi de football. Puis, aussitôt après, il disparaît. On le cache donc, il se tait. Puis, on n'entend plus du tout parler de lui. Il reste silencieux et discret ces temps-ci, ne semble plus courir, au point qu'à l'étranger, on se perd en conjoncture. Que fait-il donc? Que devient-il? Sera-t-il un jour enfin autorisé à se déplacer à l'étranger? En dehors de ses compétitions officielles, prépare-t-il en secret des records? S'efface-t-il pour des raisons qui nous sont inconnues? Est-il encore malade? Est-il fini? Mystère. C'est toujours excellent, le mystère. Tout cela dure un moment, puis coup sur coup, comme surgit de nulle part, Émile bat deux nouveaux records du monde, celui des 20 kilomètres, celui de l'heure. Il devient le premier homme dans l'histoire universelle à courir plus de 20 kilomètres en une heure. Et pendant cet exploit qu'on déclare aussitôt légendaire, son kilomètre couru le plus vite est le dernier des 20. Luxe attestant qu'il avait encore des réserves, qu'il pourra mieux faire encore. Cette prodigieuse performance n'est pas près d'être égalée, s'extasie-t-on. Émile déborde ainsi le cadre humain, recule les normes des possibilités physiques, devient inaccessible à tous, nul n'est allé aussi loin. Ces deux records étant auparavant détenus par l'éternel Heino, imaginons l'ambiance dans les forêts profondes. Déjà l'on parlait de déclin, mais maintenant on comprend. Émile se préparait à des distances qu'il n'avait jamais abordées jusqu'alors. Cependant, sur le théâtre des procès politiques, on n'est jamais allé si loin non plus. Grand spectacle produit par la sécurité d'État, avec le concours artistique des conseillers soviétiques pour la dramaturgie. Comparution impeccable des prévenus, décors et costumes très soignés, public de première, rôle admirablement appris sur le bout des doigts par tout le monde, juge, procureur, avocat, accusé. Livret de mise en scène minutieux, progression dramatique parfaite jusqu'au coup de cymbale du verdict, pendaison comme s'il en pleuvait, applaudissements nourris, nombreux appels, longue vie au président Gottwald. C'est alors qu'un journaliste étranger, envoyé spécial d'un quotidien sportif, se met en tête de venir interviewer Émile. « Bien sûr, aucun problème !» Mais pour pouvoir le rencontrer, il faut d'abord l'autorisation de son commandant, puis l'accord du syndicat de la presse, puis celui du ministère de l'Information. Ce qui représente une forte quantité d'entretiens préalables, de questionnaires, de formulaires à remplir en plusieurs exemplaires, de signatures et de tampons. L'envoyé spécial, à bout de souffle, arrive enfin chez Émile, au 8 de la rue Puikovny, dans un immeuble récent à côté de la Grande Poste. Il sonne et c'est Dana qui lui ouvre, souriante. Émile n'est malheureusement pas là, se désole-t-elle. Il aurait été si content de vous voir. Mais c'est qu'il doit s'entraîner dur tous les après-midi et en ce moment il est très pris. Il lui faut préparer son déplacement à Kiev où il doit affronter un nouvel espoir soviétique nommé Nicéphore Popov. Mais ça ne fait rien, repassez ce soir et vous le verrez. En attendant, dit-elle, entrez, je vais vous faire voir la maison et puis nous prendrons le thé. Bien volontiers, dit l'envoyé spécial, ravi. Ce sont deux pièces joliment décorées. La guitare de Dana est suspendue au mur parmi les tableaux, les fanions, les rayonnages pleins de livres et de bibelots, les tapis, un portrait photographique encadré de Joseph Staline, un autre de Clement Gottwald, une lampe en forme de map-monde et un gros poste de radio. Prolongé par une belle cuisine, ces deux pièces sont distribuées par un grand vestibule où l'on peut admirer les appareils qu'Émile utilise chaque jour pour sa gymnastique d'assouplissement, dont une échelle verticale installée au milieu d'innombrables médailles et trophées. « Et les javelots ?» montre Dana. « Mes javelots !» La maison n'est pas mal, mais Dana n'est pas seule. Elle y héberge en effet une de ses proches amies, joviale enseignante d'école ménagère, qui est une personne extrêmement attentive, attentionnée, prévenante et qui ne la quitte jamais, même pour préparer le thé. On s'affaire donc autour du thé pendant que Dana raconte sa vie de tous les jours. « Ma foi, c'est simple, ils ont une vie très simple. Elle est employée comme archiviste au magazine sportif Rouche, ce qui remplit ses journées pendant qu'Émile assure au ministère ses fonctions d'officier. Puis, le temps qu'il leur reste, elle travaille son javelot, pendant que lui va courir ses kilomètres d'entraînement quotidien. « Formidable, dit l'employé spécial enchanté, mais vous avez quand même un peu de loisir, je suppose. » « Certainement, » répond Dana. « D'abord, il faut vous dire qu'Émile tient à répondre lui-même à son courrier. Il reçoit beaucoup de lettres, ça lui prend beaucoup de temps. Ensuite, eh bien, il y a la lecture, » dit-elle en désignant les rayonnages. « Oui, Émile lit beaucoup. Puis ils sortent quelquefois le soir, les spectacles et tout ça. Et quand ils restent à la maison, ils écoutent de la musique ou ils en font. » Émile possède une fort jolie voix de baryton et chante avec plaisir des vieux airs du folklore national en fin d'après-midi. Cependant que Dana l'accompagne à la guitare, dit-elle, avec un geste vers son instrument. Charmant, dit l'employé spécial enthousiaste, oublieux de ce qu'il avait cru lire un jour quant aux capacités vocales d'Émile. Émile tient à faire lui-même la cuisine. Que voulez-vous, il adore ça. « Comme on le comprend, s'exalte l'envoyé spécial, qui chasse de son esprit l'instauration récente d'étiquettes de rationnement de pain, de farine et de pommes de terre. Et dites-moi, est-ce qu'il est en bonne forme actuellement ?»« Ah, dit Dana, il vous en dira plus ce soir, mais le fait est que pour l'heure il est assez loin. C'est qu'il a été malade, n'est-ce pas ? Une sale angine, après laquelle il a dû cesser tout entraînement. » Mais enfin, il s'y remet petit à petit. C'est lui qui décide, vous savez, qu'il est son propre entraîneur. Et qu'envisage-t-il de faire aux prochains Jeux olympiques ? Eh bien, pour Helsinki, répond Dana, il hésite encore. Soit il courra 5 000 et 10 000, soit les 10 000 et le marathon. Mais tout à fait entre nous, Émile commence en vérité à se lasser de sa gloire, voyez-vous. Il pense surtout à sa succession. Vous avez dû entendre parler d'Ivan Hulsberger, de Stanislas Jungwirth. Je connais ces noms, hoche l'envoyé spécial. Enfin, nous verrons, résume-t-elle. Ce qui est certain, c'est qu'après les Jeux Olympiques, nous allons arranger un peu la maison. Elle en a bien besoin. Et par chance, Émile sait tout faire. Ça aussi, il adore. Il a prévu de tout repeindre, poser du papier peint, etc., etc. Il aime ça. « Ah, s'attendrait l'envoyé spécial. Mais repassez donc tout à l'heure, » conclut Dana en se levant. « Il vous en dira plus. » Quand l'envoyé revient le soir, c'est l'enseignante joviale qui lui ouvre, cependant que Dana, derrière elle, dans l'ombre, dit qu'elles sont vraiment désolées. « Mais voilà, Émile dort déjà. Je vous ai dit, il est très fatigué. »« Je comprends bien, » dit l'envoyé spécial ému. « Vous le saluerez de ma part. » Puis après son départ, on attend un moment. Dana se tourne vers l'autre. « Alors, » dit-elle, « c'est allé ? J'ai bien dit ce qu'il fallait ?» L'autre ôte ses masques d'enseignante et de colocataire, arrache son déguisement jovial en allant ouvrir une armoire, presser le bouton d'arrêt d'un enregistreur, en ôter la bande magnétique, et la glisser dans une enveloppe, puis dans la poche de son manteau qu'elle enfile sèchement sans répondre. « Je vais faire mon rapport, camarade, » dit-elle seulement. « Le cas échéant, tu seras informé. » Elle sort, une berline Tatraplan T600 bleu nuit, vient aussitôt se garer devant la porte. Elle monte à bord et la voiture démarre vers les bâtiments de la sécurité. Et le livre « Courir » de Jean Echenoz se termine sur la disgrâce, évidemment, d'Émile Zatopek, dont vous aurez peut-être deviné le nom. On l'a envoyé, comme on avait envoyé Alexandre Dubček, qui avait fait le printemps de Prague avec Václav Havel, comme on avait envoyé Dubček faire le jardinier à Bratislava, on a envoyé Émile dans la cave des archives du ministère des Sports. Le purgatoire est terminé. On lui confie à Prague un poste en sous-sol, en centre d'information des sports. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À bientôt.